Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'heure de notre grande édition du journal au micro Lievin Bouinga. Au sommaire de cette édition, toutes les écoles primaires et secondaires en panne depuis environ une semaine dans les localités Lacus en Ituri. À la base, toujours l'insécurité qui sévit dans cette partie de la RDC. Élèves, parents et enseignants enfouissent les atrocités des groupes armés qui s'intensifient dans la zone. Et puis, dame, la pluie s'invite encore dans l'actualité. Elle vient encore une fois de faire des dégâts ce matin à Kinshasa. Nous allons sillonner quelques communes où l'on parle de dégâts matériels importants, comme des maisons ayant perdu des toitures après cette grosse pluie de ce matin. L'importance des visites et assistances pour des orphelins et des enfants en conflit avec la loi nous intéresse ce midi. Pour en parler, le père Jean-Robert Limbaya, directeur du Centre d'encadrement des orphelins et des enfants en conflit avec la loi, il est notre invité à suivre vers la fin de ce journal. Encore une fois, bonjour. Toutes les écoles primaires et secondaires sont fermées depuis environ une semaine dans les localités Lacus, Ranitouri et celle de Fataki dans le territoire de Djougou totalisent un mois de fermeture. Les élèves et leurs parents ainsi que les enseignants enfouissent les atrocités des groupes armés qui s'intensifient dans la zone. Ils plaident pour la restauration de l'autorité de l'État dans leur entité pour sauver cette année scolaire qui pour eux semble hypothétique. Isaac Remoyope nous en dit plus.
À Chiomia et dans les camps de pêche de Nyamamba, Café, Mbougi, Jogbi, plus de 30 écoles ne sont pas opérationnelles, indiquent des sources locales. La majorité des élèves et leurs parents ont fui en Ouganda et d'autres se sont installés à Kasenyi, situé à 7 km. C'est suite aux affrontements depuis la semaine dernière entre les groupes armés Zaïre et les FARDC. Dans les groupes Madjaïba et Afata, qui est environ 90 km au nord de Bounia, environ 15 écoles sont fermées suite aux multiples attaques des Codeco qui ont fait séquander mourir environ 3 semaines. Plus de 3000 élèves de ces entités ont trouvé refuge vers Boulé, Lopa, Igabarir et Bounia. Plus d'espoir pour eux de regagner aussitôt dans leur village d'origine pour reprendre les chemins de l'école. C'est là à l'instar des milliers d'autres enfants en âge scolaire qui se sont installés dans les différents sites des déplacés disséminés dans la province. Un enseignant exprime son désarroi.
Les enfants sont allés de ramasser des vivres. Ils cherchent comment on peut les aider avec un petit rien. Avec les sécurités, nous voyons que l'année sera cotée dans leur milieu là-bas, l'année blanche. Là, il n'y a pas moyen de vivre. Au gouvernement qu'il puisse intervenir chez nous, c'est-à-dire on devait renforcer les militaires.
La province de l'Ituri compte à ces jours plus d'un million de déplacés composés essentiellement des enfants qui ne vont pas à l'école depuis 7 ans à cause de l'insécurité. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, cet appel de l'UNICEF à toutes les parties prenantes dans la crise qui secoue l'Est de la RDC, l'agence onusienne et ses partenaires leur demandent d'assurer la protection des civils et la continuité des services publics essentiels. Selon l'UNICEF, le violent conflit qui a éclaté fin janvier a privé d'eau potable, de services d'assainissement et d'électricité à une grande partie de 2 millions d'habitants de la ville, dont un tiers a récemment été déplacé. Jean-François Basse, son représentant ad intérim en RDC, rappelle que les enfants et les familles ont plus que jamais besoin d'eau salubre pour se prémunir et éviter une crise sanitaire plus grave pendant que les épidémies de choléra et de variole se poursuivent dans l'est du pays. Pelé Kipelamondo.
Pour l'UNICEF et ses partenaires, toutes les parties au conflit ont le devoir de protéger la ressource en eau conformément à la liste des principes de Genève sur la protection des infrastructures hydrauliques. Dans un communiqué rendu public hier, lundi à Goma, l'UNICEF renseigne que la crise humanitaire qui secoue l'est de la RDC a contraint des centaines de milliers de personnes à quitter les anciens sites de déplacement autour de Goma pour rejoindre des zones de réinstallation où les services d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont limités. Le conflit a également entraîné la destruction d'infrastructures d'approvisionnement en eau largement utilisées auparavant. Malgré la détérioration de la situation sécuritaire, l'UNICEF dit avoir rapidement réagi en acheminant de l'eau par camion vers trois établissements de santé, dont l'hôpital général de référence de Virunga, qui a pris en charge environ 3000 patients blessés. Toujours d'après la même source, environ 700 000 personnes disposent désormais d'un accès quotidien à l'eau par l'intermédiaire de la Régie des eaux suite à l'approvisionnement par l'UNICEF et la MONUSCO de 77 000 litres de carburant. Cela a permis aux cinq principales stations de pompage de redémarrer après avoir été arrêtées en raison de coupures de courant.
Un autre cri est celui du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. OCHA dénonce aussi de son côté de graves violations des droits humains et droits internationaux enregistrées récemment au nord et sud Kivu, précisément dans les villes de Goma et Bukavu, occupées par la rébellion. Son coordonnateur Bruno Lemarquis appelle toutes les parties à protéger les civils et à respecter leurs obligations en vertu du droit international. Ronlin Tibonera pour plus de détails.
Dans un communiqué du 3 mars 2025, Bruno Lemarquis exprime sa profonde inquiétude face à la multiplicité des actes de violence ciblés contre les civils, les infrastructures médicales et éducatives et le personnel humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Ces actes constituent non seulement des atteintes graves aux droits humains fondamentaux, mais aussi des violations du droit international humanitaire. Ces communiqués des OCHA indiquent qu'entre le 1er et le 3 mars, plusieurs centres hospitaliers de Goma ont été pris pour cible et par des acteurs armés, marquant une nouvelle escalade de violence contre les structures médicales et les personnels de santé. Ce rapport également revient sur les explosions du 27 février 2025 lors d'une manifestation publique à Bukavu, au site Kivu, qui ont fait 13 morts et des dizaines de blessés parmi les civils. En outre, plusieurs autres rapports signalent une hausse inquiétante des cas d'enlèvement des civils, y compris aux abords d'écoles et structures de santé, dans certains territoires du nord et du sud Kivu, ajoute ses communiqués de presse. Bruno Lemarquis rappelle que toute attaque visant ces structures essentielles est une violation grave du droit international humanitaire et doit cesser, souligne-t-il.
Et pour ces chiffres, plus de 1000 personnes civiles ont perdu la vie à la suite des violences causées par la milice Mobondo dans la zone opérationnelle Ngemba, notamment dans les provinces de Maïndombe, du Kwilu et du Kwango, ainsi que la commune rurale de Maluku à Kinshasa et le territoire de Kimvula au Congo central. Bilan encore provisoire livré par le porte-parole des opérations Ngemba de la 11e région militaire basée à Kikwit dans la province du Kwilu. Le capitaine Anthony Mwalushai indique également que les miliciens auteurs de ces exactions commettent ces méfaits partout où ils passent et n'hésitent pas à violer. Il appelle ainsi l'intervention de la justice tant nationale qu'internationale pour sauver cette situation. Le point avec Irène Boma Luzolo.
Face à la presse, les porte-parole des opérations Ngemba rapportent que dans le cadre de ces opérations, l'armée a fait un constat malheureux, surtout sur l'axe Kwamutu-Bagata. Le capitaine Anthony Mwalushai dresse un bilan parcelle très lourd en termes de pertes en vie humaine occasionnées par la milice Mobondo.
Nous avons documenté tout ce que les insurgés Mobondo ont fait depuis l'année 2022 jusqu'à ce jour. Et nous avons enregistré plus de 1000 personnes qui sont mortes côté civil, sans compter les agents de l'ordre, que ce soit les civils ou quelques militaires tombés sur le champ de bataille.
Au-delà de ces chiffres macabres, les assaillants Mobondo s'illustrent aussi dans les actes de violation des droits de l'homme, surtout des violences faites à la femme. Le capitaine Anthony Mwalushai.
Nous avons un cas qui fait froid au dos, c'est le cas de nos deux jeunes dames qui ont été enlevées dans le village Komankiro. Ce qu'elles nous ont raconté, les femmes enlevées ont fait l'objet d'exploitation sexuelle par ces insurgés pendant plus de 2 mois.
Pour les porte-parole de la 11e région militaire du Grand Bandundu, ce qui se passe actuellement dans la zone opérationnelle Ngemba mérite l'attention de la justice nationale et internationale pour réparation. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Sachez aussi que la Commission nationale de droits de l'homme, bureau de coordination du Lualaba, appelle la population au calme, à la tolérance et à privilégier le vivre ensemble. Cette institution d'appui à la démocratie l'a fait savoir au lendemain de la rencontre organisée samedi dernier à Kolwezi par le président du Sénat avec les différentes couches de la population pour les mobiliser à l'unité nationale. Ce jour-là, à la suite de la prise de parole du président de la société civile du Lualaba, qui fustigeait un certain nombre de choses, il a été pris à partie par certains participants et depuis, les menaces fusent de partout entre la société civile et le camp de ceux qui s'en étaient pris à Shadrach Moukad. D'autres détails avec Arthur Kaboulo, responsable de la CNDH dans le Lualaba. Il est au micro de Jean Gandou.
La démarche du président du Sénat dans la province du Lualaba, en collaboration avec l'autorité provinciale, une démarche salvatrice, louable, parce que c'est une initiative qui va appeler tout le monde à la paix, à la cohésion et aussi à une mobilisation par rapport au contexte actuel que traverse notre pays. Lors de la prise de la parole du président du cadre des concertations dans ses assises, son intervention n'a pas arrangé une poche de l'assistance, ce qui a fini par les manques d'égards à son endroit, chose que nous déplorons. Et à ce jour, nous vivons des échanges dans les réseaux sociaux des uns et des autres qui ont une nature à perturber l'ordre public, la cohésion sociale au niveau de la province. Nous appelons la société civile, les ONG et aussi la partie qui a attaqué le responsable du cadre de concertation à se focaliser plus sur la paix. Nous sommes dans un contexte où il faut que tout le monde mette sa main dans la pâte pour que la paix revienne. Il n'y a pas lieu ici de s'attaquer mutuellement. Alors nous appelons les uns et les autres à privilégier l'essence de la paix, la cohabitation, la tolérance.
L'actualité à Kinshasa, c'est aussi cette pluie qui s'est abattue ce matin sur presque l'ensemble de la ville. Côté bilan, on signale un mort et un blessé dans la commune de Barumbu. Par-ci, par-là, on compte quelques dégâts, des murs écroulés, des toitures emportées, des arbres qui sont tombés et des cas d'inondation. Suivez ce reportage de Babel Pongo rendu par Blaise Chindani.
Pour les deux cas de Barumbu, ce sont des murs de voisins qui se sont écroulés. Un sur une femme dans son sommeil sur l'avenue Kasongo au quartier Chimanga. Elle est décédée à l'hôpital où elle a été évacuée d'urgence. Un jeune homme a lui été blessé dans les mêmes conditions sur l'avenue Lac Mouero au quartier Bichakuchaku. Certaines maisons ont perdu leur toiture. C'est le cas chez cette dame au quartier Christ-Roi à Kassavubu. Elle témoigne.
On est venu me chercher très tôt le matin pour aller au travail. J'étais au bureau. Il y a ma fille qui m'a appelé pour me dire « Maman, regarde ce qui se passe à la maison. » Elle m'a montré sur une vidéo, comment est-ce que ma toiture de la chambre était ouverte et tous les plafonds étaient sur les lits, la toiture du côté du salon et la salle à manger, tout était parti, toutes les chaises, donc tout est, donc on ne peut rien ramener.
Il y a eu plusieurs cas d'inondation, notamment au quartier Mososo à Kingabwandanou, dans la commune de Limété. Ici, la bourgmestre signale aussi un incendie à la polyclinique Yanga, toujours pendant la pluie. Inondation aussi signalée sur l'avenue Kidouma à Kassavubu, une partie de l'avenue Ouya à Kintambo et au niveau du pont Gounza sur Elengessa, pont qui continue de s'affaisser. Plusieurs bourgmestres affirment que les inondations sont quand même un peu limitées grâce aux travaux d'assainissement en cours. À Kalamu, deux arbres sont tombés sans faire des dégâts sur l'avenue Victoire à Kauka et au croisement Irebu-Kassavubu. Par ailleurs, des nids de poules et certains chantiers routiers sont remplis d'eau, rendant la circulation difficile.
C'est vraiment triste. Autre actualité, 250 anciens délinquants communément appelés Kuluna, devenus bâtisseurs de la nation, sont à Kinshasa depuis hier lundi en provenance de Kanyamakassese pour parfaire leur formation. Le service national a signé un contrat avec une entreprise étrangère opérant dans la capitale pour que ces jeunes apprennent le carrelage, le froid, la climatisation ou encore l'électricité industrielle. Cette information est livrée à la presse par le commandant de cette structure, le lieutenant. Le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik indique aussi que le service national constitue un grand centre de brassage des jeunes venus de toutes les provinces de la RDC. Cela pour lutter contre le tribalisme et promouvoir le patriotisme. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit, voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que, non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangé, point barre. Non, le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangé, mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kassai, partout c'est chez toi. Si notre jeunesse n'est pas préparée à cela, nous avons vraiment besoin de faire ce brassage national. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de régionalisme au service national comme le Moulin.
Moja, 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 au service de la patrie.
Manifestation hier lundi à Mbujimayi des agents et travailleurs de la société Anui Congo d'investissement minier Saxim. Leur marche est partie du rond-point Petrombou jusqu'au gouvernorat de province du Kassai oriental où ils ont remis leur mémorandum à l'autorité provinciale. Certains travailleurs réclament les salaires de 14 mois et d'autres pour 12 mois. Ils protestent aussi contre le monopole limité d'achat des pierres précieuses à 5 opérateurs étrangers préalablement présélectionnés par le gouvernement. Une longue histoire que nous résume Esther Ndalafina.
Des dizaines d'agents et travailleurs de la SACIM étaient ce lundi dans les rues de Mbujimaï. Leurs dépendants tenaient des pancartes et des calicots en main. Ils sont tous partis de la place Salongo en passant par Petrumbu sur l'avenue Inga Mz Laurent Désiré Kabila pour chuter au gouvernorat de province où ils ont lu leur mémorandum avant de le remettre auprès du gouverneur de province.
La SACIM va mal. La SACIM ne sait plus s'acquitter à ses devoirs contractuels vis-à-vis de ses travailleurs. 64 travailleurs décédés dans 3 ans.
Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouéboué, a promis de s'impliquer pour une issue heureuse.
La maladie de la SACIM affecte les gouverneurs de province. Vous avez beaucoup parlé. Lorsqu'il y a les entreprises dans la province, on paye les agents, l'argent circule, on paye les impôts. Je me suis investi depuis longtemps. Je vais continuer avec ces mémos. Je ne vais pas me fatiguer.
Signalons que certains agents affirment que la signature au mois d'avril dernier par Antoinette Samba, alors ministre des Mines, de l'arrêté attribuant le monopole limité d'achat de pierres précieuses à 5 opérateurs étrangers préalablement sélectionnés, cause plusieurs préjudices à la SACIM au point où elle ne parvient plus à prendre en charge son personnel. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, alors que le gouvernement a annoncé des poursuites contre l'ancien président Macky Sall, l'Assemblée nationale accélère les choses. Une intercommission planchée hier, lundi 3 mars, sur un projet de loi qui permettrait au président de la République du Sénégal de ratifier une convention de transfert des détenus avec le Maroc où vit l'ancien président.
L'invité.
Notre invité, le père Jean-Robert Limbaya, directeur du Centre d'encadrement des orphelins et des enfants en conflit avec la loi. Cette structure, gérée par la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, est située au bloc Motumbe, quartier Plateau Boyoma, dans la commune de Makisso, à Kisangani. Dans cet entretien avec Jacques Mokonkole, le père Limbaya souligne l'importance des visites de l'assistance pour ses enfants. Il partage également les défis rencontrés dans leur encadrement et appelle à la solidarité envers ces personnes vulnérables. Suivez.
Bonjour père.
Bonjour.
Père, quels sont vos sentiments en accueillant IMK dans vos installations?
Nous sommes contents. Contents d'abord pour nos enfants, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent leur rendre visite, c'est un motif de joie. Mais aussi, psychologiquement, ça les aide à comprendre qu'ils ne sont pas rejetés par le monde. Et donc pour nous, c'est, psychologiquement, c'est une bonne chose pour les enfants. Maintenant, nous, ils ne sont pas venus bredouis, ils sont venus aussi avec un peu de vivre frais.
Qu'est-ce que cette assistance représentait pour vous?
Ça nous épaule dans notre charge d'alimentation des enfants. Et donc, disons merci, sincèrement merci, parce que c'est une aide importante. Ces enfants grandissent avec la générosité des gens. Donc, chaque générosité compte pour nous. Prions le Seigneur afin qu'il leur rende au centuple de tout ce qu'ils ont fait pour les enfants aujourd'hui.
Comment encadrez-vous ces enfants?
Les enfants, ce n'est pas facile. C'est des enfants. Il y a des adolescents et adolescentes. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. À cet âge, chacun présente un peu ses caprices selon son âge, selon sa réalité. Et avoir les deux sexes ensemble, ce n'est pas toujours évident. Mais nous les encadrons du point de vue de l'éducation scolaire. Tous les enfants vont à l'école. Ils sont logés ici chez nous. Ils mangent ici chez nous. Et même tous les soins, c'est ici chez nous, soins médicaux. Et donc, nous essayons de les aider, de les encadrer avec l'aide de la province. Nous sommes des prêtres du Sacré-Cœur. Notre province nous aide efficacement pour prendre soin de ses enfants. On a diminué un peu leur nombre. Ils sont 51 aujourd'hui.
Et pourquoi réduire leur nombre et où vont les autres?
On a diminué un peu leur nombre faute de moyens. Alors on a réduit le nombre pour pouvoir bien les encadrer, en tout cas encadrer ceux qui sont là. Alors chaque année, il y a des enfants qui sont réinsérés dans leur famille. Et donc le nombre diminue par ces fêtes-là. C'est-à-dire à chaque fois, quand l'enfant achève son parcours chez nous, à l'âge de 18 ans, on ne peut plus les garder ici. Tous ceux qui ont de famille essaient de les gagner leur famille. On les accompagne bien évidemment. On essaie de résoudre les conflits qui a occasionné le départ de l'enfant de la famille pendant que l'enfant est encore chez nous. Et au bout de son parcours ici, à la fin, on arrive à trouver une solution et l'enfant est réinséré dans sa famille sans problème.
Quel genre d'encadrement vous assurez à ces enfants?
Alors ici, principalement, tous les enfants doivent étudier. Donc, un enfant qui n'étudie pas, vous avez vu même ceux qui ont 2 ans vont à Saint-Jean, parce que c'est notre école aussi. Et comme celui-ci, il va à Saint-Jean. Donc, tous ceux qui sont ici doivent impérativement aller à l'école, parce que c'est d'abord leur droit. Et c'est un devoir pour nous de les envoyer. En plus de cela, il y a de ceux qui font des métiers, parce que chaque enfant est étudié selon son profil. On appelle ça projet éducatif personnalisé. On suit chaque enfant individuellement pour voir, selon son contexte, s'il peut se socialiser facilement avec les études classiques ou est-ce qu'il faut l'envoyer au métier. Et évidemment, ceux qui n'ont pas un profil qui peuvent les aider à poursuivre les études après le centre, on leur demande de faire le métier. Et chacun librement choisit soit de faire la coupe et couture, soit la menuiserie, soit l'ajustage, ils font la soudure, soit la peinture. Donc, ils choisissent librement et nous, on les accompagne.
Quelles sont les difficultés, surtout les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
Les difficultés, c'est surtout par rapport aux filles. Quand vous avez une fille de 17 ans dont la famille ne veut pas l'accepter, c'est tout un problème parce que c'est des filles avec les filles, on ne peut pas faire les foyers autonomes. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé une meilleure formule. Donc, c'est l'unique difficulté. Gloire à Dieu, il y a des familles d'accueil qui nous aident à accueillir ces enfants. Des anciens qui étaient partis, si ça n'a pas marché, nous retournent ici un peu transformés négativement. Donc, ils deviennent un peu paresseux. Et alors là, ça nous fait un peu de la peine.
Un message à la population?
Le message, c'est de venir nous soutenir. Soutenir les enfants, parce que ces enfants ont besoin de l'affection de tout le monde.
Père Jean-Robert, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, je vous dis tout de suite que Martin Sebujangwe, Élisée Chikota et Mimi Kindou ont concouru à sa réussite. Excellente journée à toutes et à tous.